Chapitre 9. Deux jours après, André déjeunait avec Galea Cecinaro à une table du café de Rome. C'était une matinée chaude. Le café, presque désert, était noyé d'ombre et d'ennui. Les domestiques somnolaient parmi le bourdonnement des mouches. Donc, racontait le prince barbu, sachant qu'elle aime à se donner dans des circonstances extraordinaires et bizarres, j'ai osé. Il racontait crûment la façon très audacieuse dont il était parvenu à prendre Lady Hesfield. Il racontait sans scrupule et sans réticence, n'omettant aucune particularité, louant l'excellence de l'acquisition pour un connaisseur. De temps en temps, il s'interrompait pour mettre le couteau dans une pièce de viande succulente et saignante qui fumait, ou pour vider un verre de vin rouge. Tout son maintien exprimait la santé et la force. André Sperrel y alluma une cigarette. En dépit de ses efforts, il ne réussissait pas à avaler une bouchée, à vaincre la répugnance de son estomac que serrait un horrible tremblement. Lorsque Cecinaro lui versait du vin, avec le vin il buvait le poison. À un certain moment, le prince, malgré son peu de subtilité, conçut un doute et il regarda l'ancien amant d'Hélène. Celui-ci, à part le manque d'appétit, ne donnait aucun signe de trouble. Il lançait en l'air les nuages de fumée avec beaucoup de calme et souriait au joyeux narrateur de son habituel sourire nuancé d'ironie. Le prince dit « Elle viendra chez moi aujourd'hui pour la première fois. »« Chez toi, aujourd'hui ?»« Oui. » »« Ce mois-ci, à Rome, est un mois excellent pour l'amour. » L'après-midi, de 3 à 6, chaque nid abrite son couple. Effectivement, interrompit Galéas, c'est à 3 heures qu'elle doit venir. Tous deux regardèrent leur montre. André demanda « Partons-nous ?»« Partons, » répondit Galéas en se levant, « nous remonterons ensemble la rue des Condotti. Je vais prendre des fleurs chez Cardella. Mais dis-moi, puisque tu sais, quelles sont les fleurs qu'Hélène préfère ?» André se mit à rire et un mot atroce lui vint sur les lèvres. Mais il répondit avec insouciance « Les roses, autrefois. » Devant la barcaccia, ils se séparèrent. À cette heure, la place d'Espagne avait déjà son apparence déserte de l'été. Quelques ouvriers restauraient une conduite et un monceau de terre desséché par le soleil jetait des tourbillons de poussière dans les souffles chauds du vent. L'escalier de la Trinité resplendissait, blanc et désert. André monta lentement, lentement, s'arrêtant toutes les 2 ou 3 marches, comme s'il eût traîné un fardeau énorme. Il rentra chez lui. Il resta dans sa chambre, sur son lit, jusqu'à 2h15. À 2h15, il sortit. Il prit la rue Sixtine, continua par la rue des 4 Fontaines, dépassa le palais Barberini. Il s'arrêta à quelque distance devant les rayons d'un bouquiniste pour attendre 3 heures. Le bouquiniste, un petit homme tout rugueux et parcheminé comme une tortue décrépite, lui offrit des livres. Il choisissait un à un ses meilleurs volumes et les lui mettait sous les yeux en nasillant avec une monotonie insupportable. 3 heures allaient sonner dans quelques minutes. André regardait les titres des livres, surveillait les grilles du palais, entendait confusément la voix du libraire mêlée au fracas de ses veines. Une dame franchit les grilles, descendit par le trottoir vers la place, monta dans un fiacre, s'éloigna par la rue du Triton. André descendit derrière elle, reprit la rue Sixtine, rentra chez lui. En attendant l'arrivée de Marie, il se jeta sur son lit et s'y tint si complètement immobile qu'il semblait ne plus souffrir. Marie vint à 5 heures. Elle dit, haletante, « Tu sais, je puis rester avec toi toute la soirée, toute la nuit, jusqu'à demain. » Elle dit, « Ce sera notre première et notre dernière nuit d'amour. Je pars mardi. » Sanglotante, agitée d'un tremblement, se serrant contre lui avec désespoir, les lèvres sur les lèvres, elle dit, « Fais que je ne vois pas le jour de demain. Tue-moi. » Puis, regardant ce visage défait, « Tu souffres ? » demanda-t-elle. « Toi aussi ? Tu penses que nous ne nous reverrons jamais ?» Il éprouvait une difficulté énorme à lui parler, à lui répondre. Il avait la langue engourdie et les mots lui manquaient. Il sentait un besoin instinctif de se cacher le visage, de se soustraire au regard de cette femme, d'éviter qu'elle le questionnât. Il ne sut ni la consoler, ni l'abuser. Il répondit d'une voix éteinte et méconnaissable « Tais-toi !» Pelotonné au pied de Marie, il posa la tête sur ses genoux et resta longtemps immobile sans rien dire. Elle tenait ses mains sur les tempes de son amie, elle sentait la pulsation des artères, inégale et violente. Elle le sentait souffrir. Et elle-même ne souffrait plus de sa propre douleur, mais elle souffrait de sa douleur à lui, de cette seule douleur. Il se leva, lui prit les mains, l'entraîna dans la chambre voisine. Elle obéit. Dans le lit, éperdue, épouvantée de la sombre ardeur de ce forcené, elle criait « Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ?» Elle voulait le regarder dans les yeux, connaître sa démence. Mais il se cachait le visage dans le sein, dans le cou, dans les cheveux de sa victime, frénétiquement. Soudain, elle se dégagea de son étreinte, avec une terrible expression d'horreur par tout le corps, plus blanche que les oreillers, plus défigurée que si elle se fût à l'instant même arrachée d'entre les bras de la mort. Ce nom ! Ce nom ! Elle venait d'entendre ce nom. Un grand silence fit le vide dans son âme. En elle s'ouvrit un de ces abîmes où l'univers entier semble disparaître au heurt d'une pensée unique. Elle n'entendait plus rien. André criait, suppliait, se désespérait vainement. Elle n'entendait rien. Une sorte d'instinct dirigeait ses actes. Elle trouva ses vêtements. Elle s'habilla. André sanglotait sur le lit, affolé. Il s'aperçut qu'elle sortait de la chambre. « Marie ! Marie !» Il écouta. « Marie !» Il distingua le bruit de la porte qui se refermait.